cours numéro 72 sur l'installation en cabinet et notamment l'aspect juridique. Nous allons développer dans le cours 74, la problématique de l'utilisation du titre de psychothérapeute qui est aujourd'hui encadré en France. On ne peut plus utiliser le titre. On ne peut plus utiliser librement le titre de psychothérapeute. C'est une législation qui a mis du temps à s'installer, qui est, je crois, somme toute, assez peu respectée, et qui, de toute façon, si ce n'est dans l'esprit de certains intégristes qui ont porté cette loi, qui l'ont voulu, notamment quelques psychologues et quelques législateurs, je crois que globalement il n'y avait pas de demande, que la plupart des patients potentiels et la plupart des psychothérapeutes ou hypnothérapeutes ou psychanalystes, voire même médecins, autres professionnels au sens large du monde de psy, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, ou d'essence libre, qui ne s'inscrivent pas dans le médical ou le paramédical à proprement parler, donc tout l'apanage des tout le panel pardon des psychothérapeutes au sens large, cela n'avait strictement aucun intérêt pour eux et bon voilà, ça existe, il faut le savoir, on va le développer dans le podcast 74, donc un peu plus dans quelques minutes. Vous pouvez, comme je le dis dans ce podcast, utiliser le titre que vous voulez, hypnotiseur, hypnothérapeute, praticien en hypnose, d'autres et variés, puisque, comme je le dis dans ce fameux podcast, celui qui a porté la loi qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale et qui est à la base médecin ophtalmo, lui-même disait qu'il ne connaissait strictement rien aux psychothérapies, ce qui n'a pas empêché de légiférer. Son nom m'échappe, là, je l'ai eu une seconde en tête et il m'échappe. Bernard Accoyer, voilà. Comme il le disait lui-même, ça ne présumant rien de l'utilisation des psychothérapies, hein. Chacun est libre de continuer à pratiquer la psychothérapie qu'il veut, et chacun est libre d'aller vers le psychothérapeute qu'il veut. Sauf que voilà, ce titre, ce mot bien précis, cet adjectif, ce qualificatif, est maintenant soumis à une législation particulière. Vous le verrez dans le podcast 75. Donc, revenons sur l'installation en cabinet. Bien évidemment, si c'est votre activité première ou si c'est un complément de votre activité psychothérapeutique ou médicale, etc., vous aurez déjà un statut. Pour les médecins, la problématique est réglée. C'est une installation en libéral, comme d'autres psychothérapeutes déjà existants d'ailleurs, quelle que soit la technique et la thérapie qu'ils pratiquent. Mais là, je m'adresse plus particulièrement aux nouveaux psychothérapeutes ou au niveau hypnothérapeute, plus précisément. Encore une fois, que l'hypnose soit votre pratique première, principale ou une adjonction d'activité, et que vous souhaitiez pratiquer une ou deux autres psychothérapies ou techniques thérapeutiques en parallèle. Donc il vous faut un statut juridique. On ne peut pas pratiquer en France sans statut juridique. Donc il y a différents statuts, que vous soyez en société, si vous êtes seul, c'est plutôt le pendant de la SARL, c'est l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Mais il y a des statuts beaucoup plus simples, notamment le statut d'auto-entrepreneur, qui je crois vient de changer de nom, mais ça reste le même principe. Alors je crois que maintenant ça s'appelle comment? Entrepreneur individuel. Je crois que c'est ça. Auparavant, donc le principe était suivant, il y avait une simple déclaration à l'URSSAF. Vous pouvez chercher hein, sur le site officiel, ça doit être auto-entrepreneur.fr tout collé, ou auto-entrepreneur.fr tout collé, mais vous verrez que l'un des deux c'est le site officiel. Donc une déclaration très simple, Vous pouvez travailler bien évidemment chez vous, vous pouvez louer un local également ou partager un local. D'un point de vue comptable, c'est extrêmement simple, il n'y a pas de compte à rendre, pas vraiment de tenue, pas de comptabilité à tenir, si ce n'est éventuellement un registre de vente. Les achats, ce n'est pas utile puisque de toute façon, les achats, vous ne récupérez en statut auto-entrepreneur pas les charges. Donc ça ne compte pas. Il y a des limites de chiffre d'affaires, mais qui sont tout à fait décentes. Pour les dépasser, ça veut dire que votre activité commencera à tourner suffisamment pour que vous puissiez envisager un autre statut. Il y a une simplification de la déclaration et du paiement des charges, c'est-à-dire que vous déclarez par trimestre, éventuellement, il y a une autre périodicité, sur un site en ligne. Alors là, je ne me souviens plus du site. Je crois que c'est net-entreprise.fr. Voilà, je crois que c'est ça. Enfin, tout ça, vous le trouverez facilement sur le site de l'auto-entrepreneur, le site officiel. Donc vous déclarez trimestriellement, vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés si vous faites des bénéfices, et vous payez trimestriellement en fonction de votre chiffre d'affaires un pourcentage qui correspond à vos cotisations sociales, qui correspondent à la retraite, à la sécurité sociale, etc., etc. Alors, si je vous parle de ce statut, c'est que pour commencer, bien évidemment, c'est le statut le plus intéressant parce qu'il est facile à mettre en œuvre, rapide à mettre en œuvre en quelques jours, en une semaine ou 10 jours au pire des cas, si l'URSSAF à qui vous allez envoyer votre formulaire vous enregistre, vous répond et fonctionne bien, c'est ce qui se passe maintenant, vous aurez rapidement un numéro de SIRET. Mais rien ne vous empêche de commencer à travailler dès que vous avez fait votre déclaration, puisque ça, c'est tout à fait légal en France. Donc, si je reviens sur ce que je disais, le statut d'auto-entrepreneur est le statut le plus facile à mettre en œuvre, le plus léger pour les débuts de votre activité, si vous commencez à travailler en indépendant. Ensuite, en fonction effectivement des chiffres d'affaires, et de vos désirs, c'est-à-dire peut-être que ça fonctionnera tellement bien que vous aurez envie d'acheter votre local ou de vous associer ou faire partager, etc., etc. Peut-être allez-vous évoluer ou faire d'autres adjoindre d'autres activités, par exemple de la formation ou d'autres activités. Vous allez peut-être faire évoluer votre statut, que ce soit en entreprise, en libéral, etc. Donc là, vous verrez à ce moment-là. Encore une fois, aujourd'hui, ce statut d'auto-entrepreneur est, d'un point de vue fiscal, social, de la protection, tout à fait intéressant. Maintenant, il y a un problème, effectivement, qui peut se poser par rapport aux retraites, c'est-à-dire qu'il faut valider un certain nombre de trimestres et de chiffres d'affaires pour avoir droit à un certain nombre de trimestres par an pour que ce soit valable pour votre retraite. Bon, alors la retraite en France, la retraite, le système de retraite par répartition en France, on verra dans 30, 40 ou 50 ans ce que ça va donner hein, lorsque un certain nombre d'entre vous prendront leur retraite. Peut-être, de toute façon, je vous engage à y songer bien avant et peut-être hors du cadre de la retraite, légale par répartition. Voilà, donc essayez d'approfondir sur le sujet de l'auto-entrepreneuriat pour vous installer. C'est le statut juridique qui est pour se lancer le plus intéressant, le plus simple, le moins formaliste, pas de publication d'annonce légale pour créer et le plus économique. Hein. Pas d'obligation d'avoir un local, pas d'obligation d'avoir une domiciliation, vous pouvez travailler chez vous, il faut déclarer à votre votre propriétaire, par une simple déclaration que vous allez travailler chez vous, il ne peut théoriquement pas s'y opposer. Bon, ça, c'est encore à vous à approfondir. Moi, je travaille dans un autre cadre puisque j'ai un cabinet. Les coûts et les frais sont réduits. Quoi encore? Les formalités sont simples, tant pour le mettre en œuvre, le créer, ce statut, que pour se radier. Donc vraiment, au début, je vous invite à... vous pouvez, rien ne vous empêche à regarder d'autres statuts, hein, entrepreneur, entreprise EURL, hein, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou entreprise individuelle. Mais je crois que, c'est ce que je disais en préambule, aujourd'hui, le législateur a tenté de rapprocher l'entreprise individuelle et l'auto-entrepreneuriat. Je crois que, moi je ne me suis pas penché sur le sujet, je crois que c'est vraiment, si ce n'est la même chose, il n'y a pas beaucoup de différence, notamment d'un point de vue fiscal. Ah oui, d'un point de vue fiscal d'ailleurs, l'auto-entrepreneuriat, sachez que dans la mesure où vous aurez déclaré par exemple tous les mois ou tous les trimestres et que vous aurez payé automatiquement vos charges, une part, vous pouvez choisir de payer votre impôt sur votre activité économique à ce moment-là, tous les mois ou tous les trimestres, et vous ne serez pas imposable sur ce chiffre d'affaires-là une fois par an lorsque vous allez déclarer vos impôts. Vous le serez, mais vous aurez déjà payé, c'est ce que je veux dire. Voilà, donc consultez les différents statuts, réfléchissez à ce statut d'auto-entrepreneuriat, parce que pour l'instant, c'est encore une fois le plus léger, le plus facile, le plus intéressant lorsqu'on crée son cabinet. Et d'un point de vue juridique, fiscal, social et économique, c'est vraiment un bon statut. Après, si on veut se développer, bien évidemment, il y a peut-être des structures plus adaptées. Je ne sais pas, une petite précision, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé quelque part. Il y a une chose qui est fondamentale, en parallèle de votre statut juridique et de votre installation, il faut que vous preniez une assurance, une responsabilité civile professionnelle qui va vous protéger juridiquement. Déjà de votre activité par rapport à votre activité dans votre lieu d'activité, et puis vis-à-vis de potentielles poursuites de votre clientèle. Donc ça, c'est très important. Il y a à Paris un cabinet qui alors comment s'appelle-t-il? Voilà, c'est le cabinet Zadok, Zadok, dans le 16e arrondissement. Vous pourrez me demander les coordonnées par mail ou par Skype, où je le mettrai dans la rubrique téléchargement. Ça, je n'avais pas songé à le faire. Lui, depuis déjà un certain nombre d'années, je me demande si c'est pas lui qui a initié cette couverture auprès des compagnies d'assurance. Il a réussi à obtenir spécifiquement pour les psychanalystes, les psychothérapeutes, les hypnothérapeutes, etc., un contrat de responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie AXA. Il est correct d'un point de vue juridique, il est assez économique. Alors de tête, je crois que c'est entre 150 et 200 euros par an, c'est peut-être un peu moins, hein, je ne me souviens plus. Je vérifierai tout ça, moi, la cotisation que je paie actuellement par exemple, et je mettrai tout ça dans la rubrique téléchargement, leurs coordonnées, etc. Vous pouvez y adjoindre une garantie supplémentaire qui est une défense juridique, si vous vous faites attaquer, voilà, ils prennent en charge les frais de défense, etc., etc. Mais fondamentalement, la première des garanties à avoir, c'est la responsabilité civile professionnelle qui va vous couvrir. Je connais énormément, alors, mais vraiment énormément, de professionnels, hein, du monde de psy au sens large, sauf les médecins psychiatres qui, eux, ont accès à des assurances professionnelles médicales. Mais à Paris, énormément, je vais pas dire tous, mais beaucoup sont des psychothérapeutes au sens large, sont référencés chez, enfin, ont pris leur assurance chez Zadok parce que c'est vraiment un bon produit. Et qu'il existe d'autres, je crois, hein. Il y en a d'autres, il existe d'autres, j'avais fait une petite enquête à une époque, mais c'était le plus économique, et de loin d'ailleurs, donc autant ne pas aller chercher ailleurs. Voilà, ça c'est très important, très important. Je crois que maintenant d'ailleurs, avec le statut d'auto-entrepreneur, il y a une obligation d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle. Donc, dans tous les cas, même s'il n'y a pas cette obligation, prenez-la.